A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Alors, je sais pas vous, mais moi, je me fais un cinéma en ce moment. Je me retrouve avec plein de bobines de films sur la table dans sol majeur et elles sont toutes signées d'un certain Daniel Kamwah. C'est un nom qui claque au Cameroun, car lorsqu'à Yaoundé, on prononce ce nom, Daniel Kamwah, les cinéphiles se souviennent forcément de Boubou Cravate, Pousse-Pousse, Notre Fille ou Le Cercle des Pouvoirs. Et puis les cinéphiles d'hier feraient bien d'ailleurs de transmettre aux cinéphiles de demain. Je dis ça parce que notre invité en sol majeur, comédien, réalisateur, scénariste, passé par l'école des Blancs, comme on dit, est l'un des pionniers du cinéma de fiction au Cameroun, avec au compteur de ses 40 ans de carrière, 11 courts et 6 longs métrages. Aujourd'hui encore, il a un pied à Paname et un mocassin à Yaoundé, et il œuvre toujours pour ce 7e art qui raconte les bobos et les beautés de l'Afrique. Au menu, Massassa, tourné en langue bamoun, et puis Turbulence, un film d'animation sur un dictateur africain avec qui toute ressemblance serait fortuite. Ah bon, vraiment ?
Oui.
Merci d'être dans le fauteuil dans le majeur, Daniel Kamwah.
Merci de m'avoir donné cette occasion.
Pourquoi vous aimez le cinéma ?
Parce que c'est un beau métier.
C'est-à-dire
et un métier qui permet de sortir de soi, de changer de personnalité, de vivre plein d'histoires. Et je pense que c'est le plus beau des métiers pour moi, en tout cas.
Et pourquoi être en sol majeur ? Je rappelle qu'en sol majeur, c'est une émission imaginée au moment de la création du ministère de l'Identité nationale et de l'immigration en France, où on évoque donc le lien au sol et à la terre. Donc acte 1, on va jeter un œil sur votre terre première, Daniel Kamwah, du côté de Nkonsamba, où vous êtes né. Ça se situe sur le littoral à 145 km de Douala.
Exactement.
Et où les petits vendeurs de croquettes chantaient quoi quand vous étiez petit ?
Ah, quand on était petit à l'école, il y a des petits vendeurs qui passaient qui disaient « Fan biscuit, two for one dollar, allez go !»« Neuf et fond, 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 two for one dollar, allez go !» C'est une façon de nous inviter à nous dépêcher parce que lui, il ne fait que passer. Donc si on ne vient pas tout de suite en acheter, on ne le verra plus.
Nkonsamba, où vous avez peut-être fait vos premières armes aussi en matière de cinéma.
Eh bien, toi, tu as du cran.
Je suis le plus mauvais élève de Jingbo Moon, monsieur. Alors, je voudrais essayer la boxe japonaise pour voir ce que c'est.
T'en as donc assez de la vie, petit toutou. Je vais te donner une bonne leçon.
D'accord.
T.
Contre toi seul.
T. Comme.
Ou contre tout le monde.
Je te donnerai seul la leçon que tu mérites.
Théâtre de l'enfance.
Quel lien entre ce film sur les arts martiaux façon Bruce Lee et vous, Daniel Kamwah ?
Un lien très, très fort parce que c'est grâce aux arts martiaux que j'ai mis les pieds pour la première fois en France. Je pratiquais les arts martiaux très jeune, on se débrouillait, on n'avait pas les vrais équipements, mais on s'inspirait des livres et on faisait à la fois de l'aïkido, du judo, du karaté. C'est donc grâce à ça que j'ai mis les pieds en France pour la première fois en 1958.
Donc vous êtes né en 43, vous quittez très tôt ce Cameroun pour la France. Faut resituer un peu, on est en pleine guerre civile. En deux mots, de quelle guerre civile on parle là ? Car le pays est en train de marcher vers son indépendance.
La particularité du Cameroun, c'est un pays qui n'a jamais été une colonie. Le Cameroun avait été placé sous la tutelle de la Société des Nations, je crois, en 1922. Et donc, la France avait pour charge de nous éduquer vers l'émancipation. Sauf que, on a été traités comme toutes les colonies. Et c'est-à-dire que cela a amené un parti, l'UPC, à se créer et à commencer à revendiquer son indépendance. On ne parlait plus d'émancipation, mais de l'indépendance.
Donc l'UPC, l'Union pour les populations du Cameroun emmené par un syndicaliste qui va devenir la figure de proue de lutte pour cette indépendance du Cameroun, un certain Oumniobé.
L'UPC a demandé à intervenir sur trois questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs.
Mais fin des années 50, est-ce que ce nom d'Oumniobé vous arrive aux oreilles, à vos oreilles de jeunes collégiens, Daniel Camois?
Bien sûr, Oumniobé est un bassa. Comment dirais-je, la lutte pour la libération au Cameroun a été essentiellement menée par les Bassa et les Bamileke. C'est sûr que à l'âge que j'avais, je n'étais pas aussi habité par cette notion d'indépendance que je le suis aujourd'hui.
La lutte se faisait de façon clandestine aussi.
Elle était clandestine, ils avaient pris le maquis, carrément. Mais de temps en temps, il y avait des incursions en ville pour imposer ou essayer d'inciter les autres à prendre le maquis avec eux pour faire pression sur l'occupant qui était la France. Donc nous, on était là, il y avait des parents qui prenaient le maquis, il y avait des
parents... Vous en avez eu dans la famille ?
On en a eu dans la famille et on a eu beaucoup de dégâts dans la famille parce que finalement... Dans cette espèce d'atmosphère, il y avait beaucoup de délations, il y avait des règlements de comptes.
Alors, moralité, le pays est en pleine insécurité à ce moment-là.
Absolument.
Donc, en octobre 58, un mois après l'assassinat d'Oumniobé par l'armée française, vous, petit Daniel, vous débarquez à Marseille.
Je débarque à Marseille en octobre.
En avion ?
Je suis venu par bateau, le paquebot s'appelait d'ailleurs le général Mangin, et de Marseille, j'ai très vite, puisque on est arrivé le matin, j'ai tout de suite pris un train, on m'a indiqué à quelle gare descendre et on m'a indiqué quel métro prendre, et j'ai débarqué 36 rue de la Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement de Paris.
Ça, c'est des adresses qu'on n'oublie jamais.
Voilà.
Vous débarquez avec quel passeport ?
Ça, moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, me surprend quand on voit la tournure de l'histoire. Sur mon passeport, c'était marqué « citoyen de l'Union française ». Et donc, je pouvais entrer en France. Bon, je pense que les problèmes de visa à l'époque ne se posaient pas avec la même acuité qu'aujourd'hui. Mais mon passeport faisait de moi un citoyen de l'Union française.
Qui vous accueille dans cette France des années 58-60 ?
Le sport, parce que je débarque dans un club de sport. Aussitôt, je dois faire des entraînements, mais je me suis quand même...
Karaté ?
Karaté, judo, aïkido, c'était les trois principales disciplines de l'époque. Après, ça s'est démultiplié. Par la suite, quand même, mon tuteur a jugé bon de m'inscrire à l'école.
Oui, mais c'est pas rien quand même. Vous vous retrouvez à 15 ans, loin, très très loin de ce Yaoundé.
Du Cameroun.
Du Cameroun, qui vous a vu naître. Est-ce qu'on peut parler de métamorphose pour ce jeune Camerounais qui, de façon assez brutale, se retrouve au milieu des Blancs ?
D'autant plus au milieu des Blancs, pendant très longtemps, je ne croisais même pas de Noirs, c'est sûr que... Mais finalement, je n'étais pas, peut-être grâce au sport, je n'étais pas si dépaysé que ça, puisque l'amitié, la camaraderie, on était tellement bien ensemble que parfois je me surprenais à parler à certains de mes camarades ma langue maternelle.
Qui est ?
Qui est le Mudumba. En quelque sorte le Banganté, parce que je suis d'Undé, plus exactement Bangoula, une des langues enseignées à l'école à l'époque, en plus du français, c'est le Mudumba.
Alors dans ce théâtre de l'enfance, il y a donc des vendeurs de croquettes, il y a des combats de karaté, et puis après votre envol vers la métropole, puisqu'on disait que c'était la métropole encore,
bien sûr.
Eh bien il y a du cinéma. Du vrai, du tatoué et du glamour, notamment avec celle qui a longtemps été surnommée les plus beaux yeux du cinéma.
Vous regardez cette photographie ?
Oui, femme mystérieuse.
C'est un symbole, un rappel à l'ordre. Elle n'est là que pour me protéger contre la tentation. Elle représente pour moi beaucoup de chagrin. Si je risquais un mauvais calembour, je vous dirais que ça n'est pas une photographie, mais une épreuve. Cher Maxime, je suis une femme sans mystère, sans attache, sans amour. Mais heureuse, réflexion faite.
Résignée ?
Oh, il y a les souvenirs. Ce sont des compagnons discrets.
Qui cherchent à se faire oublier ?
Qui se réveillent comme d'anciennes douleurs. Et puis, il y a les petits coups de théâtre du hasard.
Et Un petit extrait de Maxime, donc en noir et blanc, on est en 58 avec ce film d'Henri Verneuil. Et puis en face du comédien, du grand comédien Charles Boyer, bah, il faut imaginer en sol majeur la silhouette de Michel Morgan dans une robe et une coiffure de comtesse. Alors, est-ce que les plus beaux yeux du cinéma se sont posés sur vous, Daniel Camois ?
Ben oui, Michel Morgan a été ma reine au cours Simon, le cours d'art dramatique, c'était le plus grand cours d'art dramatique de Paris à l'époque, qui se trouvait au 36 boulevard des Invalides. Finalement, le 36 me poursuit, vous voyez.
36 Quai des Orfèvres, aussi.
C'est toujours le cinéma, on a fait tellement de films sur d'accord. Le 36 Quai des Orfèvres.
Ça consiste en quoi être la marraine de Daniel Camois quand on s'appelle Michel Morgan ?
Ça consiste à lui donner des conseils, ça consiste à le recommander auprès des professionnels parce qu'on devait passer des auditions. J'imagine qu'elle pouvait dire à quelqu'un, vous devriez l'écouter, il est bien, vous savez, peut-être. Mais j'avais aussi un parrain, la personne de François Perrier.
Autre vedette de l'époque,
j'étais bien entouré.
Quels conseils vous ont-ils donné dont vous vous souvenez ?
D'être très régulier, de ne jamais venir sur un plateau sans être sûr de son texte. Et je répétais, couché, debout, en marchant, effectivement, j'ai toujours suivi ce conseil-là.
Donc c'est un petit peu le conte de fées, on peut dire, pour vous, puisque vous faites le cours Simon, vous apprenez votre métier aussi auprès de Jean-Marie Serrault et Peter Brook, sont quand même les grands, grands noms qui ont fait l'histoire du théâtre en France.
Effectivement.
En passant par des stages chez Grotowski et l'Acteur Studio. Et puis c'est là que la vérité apparaît. À ce moment-là, quel type de rôle le théâtre et le cinéma français vous proposent ?
Au départ, ce n'était pas de grands rôles, parce que des rôles pour des Noirs, ça ne courait pas les rues. Mais j'ai eu une chance inouïe, parce qu'après avoir passé par des rôles de figuration, en tant que pratiquant des arts martiaux, on aimait bien avoir pour faire de la figuration, et peut-être qu'on m'a remarqué et on m'a confié un jour un rôle de médecin dans un feuilleton qui s'appelait « Mon seul amour », qui est diffusé à l'époque, je crois que la seule chaîne c'était TF1. Ça m'a donné du courage et puis par la suite, j'ai eu d'autres occasions comme celle-là.
Mais est-ce que les propositions de rôles sont toujours satisfaisantes ?
Quand
on est un comédien noir dans la France des années 70.
Ce n'était pas... je pense que j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à trouver un rôle satisfaisant qu'à l'époque.
Mais pourtant, vous allez passer derrière la caméra et pourtant, vous allez décider de revenir au Cameroun.
Mais justement, ce qui m'a amené finalement à décider de passer derrière la caméra, c'est qu'au bout d'un certain temps, après avoir eu de si belles occasions, on ne me proposait plus que des rôles de noir, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un personnage. Donc, après un moment de réflexion, je me suis dit, tiens, quand même, il faut que je pense à autre chose. Mais pas forcément pour moi, mais parce que j'avais des choses à raconter. Des histoires dans lesquelles je mettrais des acteurs noirs. Quand je dis acteurs noirs, ce n'est pas forcément ceux qui ont fait des formations dans des cours d'art dramatique comme moi. Mais mettre en scène des personnages qui ont un peu peuplé mon enfance. C'est pour ça que je retourne très souvent faire des films au Cameroun.
Alors, on va suivre votre œil de réalisateur, évidemment, mais après une petite halte très Macadam Cowboy avec la chanson du film éponyme. La chanson, c'est Everybody's Talking at Me. Je rappelle pour les teenagers qui n'auraient pas vu le film que c'est l'histoire d'un Texan blondinet qui monte à New York pour devenir gigolo et puis qui va finir en compagnon de galère d'un SDF. Il vous a marqué ce film ?
Il m'a tellement marqué que je n'arrêtais pas de chantonner la chanson-titre.
Ouais. Pourquoi il vous a marqué ? C'est un film terrible, triste.
C'est drôle, mais je veux dire que Dustin Hoffman et John Voight, je crois, ça faisait un tandem tellement inattendu.
L'un est très blond, très beau gosse, l'autre est tout petit et handicapé.
Tout petit, handicapé. Et en plus, ce que j'ai cru comprendre dans ce film, c'est quelqu'un qui est prêt à se prostituer. Le gars qui part de sa région texane pour monter à New York, ça donne à penser que ce n'est pas nouveau de vouloir aller ailleurs pour trouver quelque chose de meilleur.
L'Eldorado.
Exactement. Et c'est pour ça que ça me touche.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. The pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you
Petite note très 70s sur RFI pour En Sol Majeur avec Harry Nilsson et ce parfum très macadam cowboy dans l'En Sol Majeur d'un cowboy français, camerounais, je sais pas trop, Daniel Camois, fils de planteur de café devenu comédien réalisateur. Est-ce que vous sentez bien l'arôme ?
Si.
C'est comme CinémaScope.
Promenons-nous un petit peu dans votre filmographie de pionnier, Daniel Camois, avec ce premier film que vous réalisez en 73. Ça s'appelle Boubou Cravate, on va revenir sur ce titre. C'est adapté d'une nouvelle de ce cher Francis Bebet. Et c'est un film qui s'amuse d'un conflit entre un diplomate africain et son domestique sur l'identité de ses maîtres. Et il y a cette scène, je voudrais qu'on l'entende pour sentir le ton, cette scène où dans un intérieur très bourgeois, monsieur et madame sont en train de manger une poire avec un couteau et une fourchette, cependant que le domestique croque le fruit à pleines dents.
Vous les blancs, vous mangez tous de la même façon.
De quel blanc parles-tu, Joseph ?
Et de vous, monsieur. Vous savez, j'ai eu un patron européen qui, comme
Joseph,
ça...
Joseph, ta place est à la cuisine. Je te l'ai déjà dit.
Mais madame, je suis venue ici pour desservir.
Attends qu'on t'appelle.
Calme-toi, Angèle.
Il n'a pas la réflexion à te faire. Il n'est pas payé pour ça.
Joseph, je suis donc un blanc pour toi.
Bien sûr, monsieur.
Nous avons pourtant la même couleur de peau, toi et moi. Et j'ai épousé une fille de ma tribu, africaine, comme toi et moi.
C'est vrai ça, monsieur. Mais vous avez été en Europe. Vous êtes revenu et vous avez épousé une fille de votre tribu. Ça, c'est bien. Mais depuis que vous êtes là, vous ne lui apprenez que les manières des blancs. Moi-même, votre boy, je ne vous fais la cuisine que comme les Européens. Salade à midi, salade le soir, Joseph, salade. Vraiment, il n'y a seulement que la couleur de votre peau qui ne soit pas la même que celle de vos frères les blancs.
Et Joseph, mon frère, c'est toi. J'ai été en Europe, j'ai peut-être appris quelques-unes des habitudes des blancs, mais cela ne veut nullement dire que je suis devenu un des leurs.
Pourquoi tu discutes avec lui ? Il n'a pas à te faire des remarques.
Une une séquence très sépia et très en sol majeur de Boubou Cravate avec Marpe Sadan, hein, la voix féminine, cette actrice mythique d'Orfeo Negro.
Exactement.
James Campbell dans le rôle du domestique, et puis vous, Daniel Camois, qui jouez le rôle du diplomate Bounty,
mm-hmm.
on va dire. Alors, à travers cette thématique qui était classique, j'imagine, à l'époque, puisqu'on est au lendemain des indépendances, c'est-à-dire thématique de l'authenticité africaine, qu'est-ce que vous, réalisateur, vous aviez envie de dire ?
C'était, comme vous venez de le dire, très en vogue à l'époque, au lendemain des indépendances. Les artistes avaient envie de secouer un petit peu
le cocotier.
Le cocotier pour que les nouveaux dirigeants redescendent sur terre. Parce que c'est vrai qu'au lendemain des indépendances, du jour au lendemain, donc, c'est des Noirs qui sont au poste de commande et ils croient devoir se déguiser pour être craints. Autant qu'on craignait les Blancs.
Donc, au lendemain des indépendances, on avait une Afrique, en fait, qui singeait les Blancs.
Qui singeait les Blancs. En fait, la classe dirigeante, en tout cas, qui singeait les Blancs. Et on a essayé de taper un coup de pied là-dedans.
Alors
chacun
vous,
à sa manière.
Vous vous amusez, votre manière à vous, c'est effectivement de vous en amuser. Il y a ce plan d'une main noire, par exemple, dans une chevelure de femme blonde, alors que celle qui est dans son lit est brune.
Eh oui.
Il y a donc ce mythe du blanc et de la femme blanche. Hein.
Beaucoup de dirigeants africains à l'époque ont épousé des blanches. Hein.
Elles sont toujours en place, hein, d'ailleurs.
Il y en a qui sont toujours en place.
On a les noms. Hein.
Ah oui, non, mais bien sûr. Tout ça était peut-être dans leur tête une façon d'être de vrais commandeurs.
Et il y a également cette scène dans votre film où ce diplomate que vous incarnez vient à son bureau de diplomate en boubou. Le seul souci, c'est que même aux yeux de sa secrétaire, qui est une blonde, une vraie blonde, il a l'air déguisé en boubou.
Oui, parce que c'est un habit qui est fait pour être porté comme ça. Ça permet de respirer. Et ce diplomate qui, sous son boubou, porte une chemise et une cravate, ça faisait bizarre.
Le film, en tout cas, se termine par une scène de réappropriation de l'identité africaine, initiée par le domestique. Hein.
Absolument.
Pour vous, c'était un film pédagogique ou un film militant ?
Les deux. Et évidemment, c'est aussi de l'art, parce que cette espèce de réinitiation par le domestique, cette espèce de retour comme ça pour renaître, parce que la scène finale, c'est vraiment le couple, la femme noire et le diplomate se retrouvent comme un fœtus, quoi, en fait.
Dans une scène de ritualisation avec des masques pour se réapproprier cette identité africaine. Autre film qui montre bien votre sensibilité de cinéaste, c'est Pousse Pousse.
Oui.
Vous signez là, d'ailleurs, le premier long métrage du cinéma camerounais. On est en 76 à ce moment-là. Qui est celui qu'on surnomme Pousse Pousse et que vous incarnez, d'ailleurs ?
Pousse Pousse, c'est tous ces porteurs qui ont, comment dirais-je, une espèce de tricycle pour transporter les marchandises, parce que les véhicules de transport de marchandises, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc ceux qui faisaient vraiment le transport de marchandises, c'était ces pousse-pousseurs-là. Et je dénonce la pratique abusive de la dot, parce que il est arrivé que des garçons soient amenés à choisir entre épouser une femme et peut-être mener leur commerce, parce que le petit capital qu'ils avaient pour, disons, progresser, il fallait utiliser tout ça pour épouser sa dulcinée, quoi.
Ah, c'est toi. Je croyais que c'était des mouches. L'odeur de la pâte de manioc fermentée les attire beaucoup.
Moi, je suis une mouche à miel. C'est l'odeur de rose qui m'attire.
Dis donc, Poussous, toi-même, tu dis de ces choses, hein, vraiment.
N'est-ce pas, je dis les choses que tu aimes entendre. Alors, comment va ma petite marchande de miande?
Pas mal, mon petit pousse-pousse, et toi?
Ça pousse, ça pousse. Et grâce à mon pousse-pousse, je vais bientôt t'acheter, si ton père ne me demande pas trop cher.
Arrête de me dire ça, tu entends? D'abord, on ne dit pas acheter, mais on dit douter.
Où est ta mère?
Tu as peur? Elle est de l'autre côté de la cuisine.
Et oui, avec le son d'époque, hein, pousse-pousse pour un sol majeur, donc incarné et réalisé par notre invité Daniel Camois à sa sortie en 76. Ce film est ressenti comme une sorte de miroir sociétal pour les Camerounais ?
Oui, absolument. C'est un film qui a eu, peut-être parce que c'était le premier, qui a eu beaucoup de succès, et même hors du Cameroun, hein, parce que je me rappelle, j'avais un ami qui travaillait pour RFI d'ailleurs, qui voyageait beaucoup, Robert Arnaud. Il se trouvait au Niger à l'époque, et il me disait avoir assisté à une séance. À la fin du film, les gens se levaient et demandaient de bisser, de repasser le film. Tellement ils avaient aimé. C'est vraiment extraordinaire.
C'est trop joli. Alors, dans ce film, je repense à certains nouveaux plans où on voit, par par exemple, la caméra s'attarder sur des mains de femmes qui glissent de la pâte de manioc dans une feuille de bananier, ou encore sur ses hanches qui dansent peut-être du bikutsi, ou sur ses bouches gourmandes de ndolé, et puis sur ses pères de famille, bien sûr, qui jouent les craques, alors que ce sont d'éternels mendiants. Est-ce que votre caméra, à l'époque, a été volontairement celle d'un sociologue, pas très loin du documentaire ?
J'aime bien, quand je raconte une histoire qui se situe dans un environnement, rendre compte de cet environnement. Parce que notamment la petite scène qu'on a écoutée tout à l'heure entre Pousse-Pousse et sa future fiancée, elle est en train effectivement de préparer le miondo.
C'est quoi le miondo ?
Le miondo, c'est cette pâte de manioc qu'on met dans une feuille, qu'on fait cuire à la vapeur et on mange avec du ndolé ou avec du poisson braisé. Tous ces gestes-là, ça raconte beaucoup de choses.
Ça raconte quoi ?
Ça raconte l'environnement, ça raconte le terroir.
Donc une petite dimension sociologique.
Exactement.
C'était une manière de donner à voir ce qui n'existait pas encore à l'image, l'être africain.
Oui, absolument.
Et Daniel Camois, pour vous, ce jeune pousse-pousse qui a bien du mal à aimer sans que la dot ne pèse sur son petit commerce, est-ce que ce pousse-pousse, c'était à l'époque l'incarnation de la jeune nation camerounaise ?
Oui. Quelque part, parce que une nation qui est en train de se construire avait besoin de jeunes gens entreprenants qui inventent.
C'est la valeur travail.
La valeur travail, la valeur. Mais je n'exclus pas la valeur sentimentale non plus. Hein, mais il ne faut pas que ça se contredise. Quoi, hein. Je voulais montrer qu'on peut aimer sans avoir à monnayer. Mmh. Voilà.
Sauf que le mariage, encore en Afrique aujourd'hui, c'est toujours une machine Afrique.
Ah ben, ça se perpétue et parfois ça prend des proportions énormes. Ça dépend des tribus aussi. Hein, ça dépend des régions. Il y a des régions où c'est vraiment réduit à la notion de rituel, c'est-à-dire des trucs symboliques. Notamment, on va donner à la maman une houe d'épagne et au père, on va donner une machette et peut-être...
Des noix de cola
Alors, noix de cola, c'est vraiment indispensable. C'est la base. C'est avec ça qu'on frappe à la porte. Noix de cola, vin de palme. Alors qu'aujourd'hui... On ne vous parle plus de noix de cola ni de vin de palme. On vous parle de caisses de whisky, de caisses de bière, de champagne. On ne cite que des choses, assez curieusement, qui viennent d'ailleurs. On sort vraiment du symbolique, on entre dans le mercantilisme et dans l'appât du gain.
Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle comme ça.
Ah bon ?
Alors, il y a quoi dire au cinéma, et puis il y a comment le dire.
Exactement.
Rappelez-nous votre langue maternelle, Daniel Camois.
Madimba, le Madimba.
Voilà.
En sol majeur, en version originale, non sous-titrée.
Quel est votre plus grand fantasme, rêve ou frustration au cinéma ? Quand vous êtes à Douala, qu'est-ce qui vous manque de Paris ? Et quand vous êtes à Paris, qu'est-ce qui vous manque de Douala ?
Mais bon, Paris m'a dit, fils de tout là. Mais que l'année, je vais faire une fête, fils de là.
Un ensemble majeur dans votre langue africaine, c'est pas pareil, hein, Daniel Camois. C'est magnifique, hein ?
Oui.
Est-ce que cette langue que vous n'avez pas oubliée, malgré toutes ces années d'exil, est-ce qu'elle est à distance, vous diriez quand même, de vous aujourd'hui ?
Ah, mais non, dans la mesure où de toute façon j'ai cette chance, de par mon métier, d'être souvent au Cameroun et d'être souvent près des parents.
Oui, vous pensez peut-être le quotidien dans cette langue, mais le métier, quand vous êtes dans votre métier.
Ah, quand je suis dans mon métier, bien sûr que je pense en français, puisque je travaille en français, j'agis en français, parce qu'il faut communiquer.
Mais cette langue, elle est là. Elle est là.
Mais elle est là, d'abord parce que parfois je cherche des images dans ma langue que je traduis en français.
Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête une seconde sur ce film que vous avez réalisé en 2008, Massassa, doublé en français et tourné en langue bamoun. Et là, c'est pas pareil. Mais je suis kiff-kiff, comme on dit chez moi. Ce film qui est la synthèse de votre travail, un peu, d'après ce que j'ai compris, est donc une plongée dans le Cameroun des années 2000, avec vos thématiques à vous de prédilection, l'amour, contrarié par le poids des traditions, de l'argent ou des hommes de pouvoir. On va retrouver une petite seconde votre héroïne, elle s'appelle Mapone. Elle défend son amour devant le sage du village qui est censé rendre justice. Massassa, d'abord en français et puis en bamoun pour un sol majeur.
Kita Chirou, bonjour.
Oh, c'est toi, toute pointe. Toujours aussi belle, comme ta si jolie fille. Où allez-vous comme ça?
Nulle part, Tita Achirou. On attend quelqu'un qui ne sait pas où se trouve notre maison.
Bonjour à toi, ma pote.
Bonjour, monsieur Achirou.
Ah, tu as raison de bien accueillir un étranger, c'est notre coutume.
Oui, c'est vrai.
Vraiment, ta fille est très belle. J'espère qu'elle n'est pas déjà promise en mariage.
Daniel Camois dans le fauteuil dans Sol majeur sur RFI avec à l'instant donc un extrait de Massassa. Ça veut dire quoi Massassa?
Massassa, il paraît qu'il y a plusieurs traductions selon le cas. Massassa. Massassa ne raconte pas d'histoire. Massassa ne raconte pas d'histoire.
Alors, on vient d'entendre un peu presque le charme organique de la langue bamoun. Et je vais vous faire un aveu, j'ai été dérangé de voir la version française.
Mais une fois qu'on a vu le film en version bamoun, c'est vrai que la version française devient fade.
L'histoire... Il y a une inadéquation, je dirais, entre le corps des comédiens et la langue française.
Mais j'ai eu cette chance, après avoir écrit l'histoire, bien entendu, en français, devant tourner en terre bamoun, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je tourne en français, comment je vais rendre vraiment ce que je vais raconter avec suffisamment d'authenticité. Je vais donc à Foumban, et la capitale du pays bamoun. Je commence mon casting. Je voulais faire un casting, avec des gens venant de toutes les régions. Et c'est imposé à moi l'idée de tout faire en bamoun. J'ai donc donné le scénario à un professeur de collège qui est d'origine bamoun. Il m'a traduit tout le scénario, enfin tous les dialogues en tout cas, en langue bamoun. J'ai pris quelqu'un, un coach, qui savait lire ce bamoun, parce que la plupart ne savaient pas lire. J'ai pris le coach qui lisait donc le bamoun, disons, littéraire, et les acteurs transposés dans le bamoun de tous les jours. Et c'est ça qui leur a donné cette aisance. Ce ne sont pas des comédiens, c'était la première fois qu'ils étaient devant une caméra. Et ils étaient tellement à l'aise parce que c'était leur langue de tous les jours, c'était une partie de leur coutume. D'ailleurs, j'ai été félicité par le sultan parce que le sultan Bumbunjoya qui m'a dit vraiment j'ai apporté dans la culture bamoun quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai mis en image un pan de leur culture que les jeunes ne connaissent même plus.
Mais alors, c'est pour dire aussi, à travers cette expérience, que tourner un film dans une des langues africaines, c'est quand même un chemin pavé de grandes, grandes difficultés.
Ah, mais c'est très, très difficile, d'abord, parce que, le plus souvent, d'ailleurs, on a du mal à trouver des gens qui parlent bien leur langue.
Oui, puis il faut une langue commune.
Il faut une langue commune.
Et alors, est-ce que vous aimez cette version française de Massassa? Parce que quand on parle de néocolonialisme, est-ce que ça commence pas déjà par la langue, avec ce français si policé dans la version française, qui ne dit rien du réel de l'Afrique, en tout cas de ces personnages que vous campez?
Le problème dans ce métier qui est le cinéma, c'est que c'est aussi une industrie. On ne fait pas un film juste pour se faire plaisir, on fait un film pour s'adresser au plus grand nombre. Et au Cameroun, ce film projeté à Douala, si c'est en bamoun, beaucoup de gens vont sortir au milieu du film parce qu'ils n'auront rien compris. Et donc, on peut tourner effectivement en langue traditionnelle et doubler en français. Ce serait pour s'adresser au plus grand nombre. Ne mettre que des sous-titres, c'est pour déjà une élite.
tea.
Thé comme tango ou techno.
C'est vrai, j'aime bien le tango, mais je dirais techno parce que nous sommes quand même dans un monde, disons, industrialisé, que la technologie, la technocratie, la technologie est partout.
Techno dans le sens technologie, mais pas dans le sens musique.
Pas de, non, j'aime pas trop la musique techno, j'avoue.
Boubou ou cravate ?
Les deux.
Mon général.
Ma princesse. Les deux, ma princesse. Non, mais Boubou, de toute façon, même ici, je porte très peu la cravate. Hein. Bon, je ne porte pas tout le temps un Boubou non plus. Je suis en chemise parce qu'il fait chaud.
Non, mais vous voyez bien la question. Est-ce que vous avez résolu ce dilemme ? D'ailleurs, y en a-t-il un entre la culture occidentale et africaine ?
Eh bien, écoutez, moi, je dois dire que je suis tellement bien dans les deux selon les circonstances que ça ne m'a jamais posé de problème en tant que tel d'ailleurs. C'est vrai que quand je suis au Cameroun, dans certaines de mes actions, on me dit, tiens, voilà, enfin, pour eux, c'est un compliment, le blanc est venu. Hein? Hein, c'est le blanc, parce que je fais des choses qui, pour eux, ça paraît énorme, il n'y a qu'un blanc pour pouvoir faire ça, parce que c'est même frappant, c'est que le blanc, dans des pays colonisés, est synonyme de générosité, ce qui n'est pas toujours vrai.
C'est intéressant la sémantique du mot blanc hein, sur le continent, franchement.
Et moi, de ce point de vue-là, ça me dérange qu'on me traite de blanc parce qu'il n'y a pas besoin d'être en blanc pour être généreux quand la circonstance veut qu'on soit généreux.
Gris-gris ou Jésus-Christ ?
Jésus-Christ.
J'aime bien votre expression comme vous dites ça.
Oui, non, mais parce que gris-gris, c'est pas toujours positif. Bien sûr, parmi nos anciens, il y a des gens qui ont le sens
du mystique.
Du mystique, voilà. Mais ce n'est pas le gris-gris.
Oui. Vous n'avez pas d'amulette, rien du tout. Vous n'êtes pas du tout là-dedans.
Non. Moi, vous voyez, on n'est pas au cinéma, bien sûr.
Je ne vous ai pas fait les poches encore. Hein.
Mais vous êtes témoin, je ne porte rien, même pas dans mes poches.
Vous méfiez de tout ça ?
Je ne me méfie pas. Je n'en sens pas l'utilité. Bon, bien sûr, quand je suis au Cameroun, autour de moi, on ne parle que de ça. Le moindre truc, on dit que c'est quelqu'un qui me l'a fait. On n'est pas rationnel, quoi. Or, la nature est ce qu'elle est. Elle a ses exigences. Il faut être proche de la nature et n'est pas toujours penser que ce qui vous arrive de mal est le fait d'un ennemi invisible.
Emmanuel Macron ou Paul Biya ?
Alors là, c'est difficile. Hein.
Non, je vais vous dire, c'est même un piège, un vrai. Ou plutôt, je vais vous aider, Daniel Camois. C'est un tremplin, en fait, pour évoquer Turbulence.
Oui.
Ce somptueux film d'animation en 3D que vous avez réalisé en 2016, hein, je crois, en Afrique du Sud.
Ça a mis du temps. Hein.
Oui.
Voilà, c'est sorti en 2016, effectivement.
Et c'est un film qui explore les causes de l'immigration massive des Africains vers l'Occident, bien que, on le sait bien, hein, les Africains n'émigrent pas que vers l'Occident.
Non, bien sûr.
Ça se passe aussi sur le continent même.
Bien sûr.
Mais pourquoi choisir le film d'animation sur ce thème qui est quand même un thème tragique ?
À vrai dire, je n'aurais pas eu les moyens de faire ce film avec des acteurs, traverser le désert et tout ça, je n'aurais pas eu les moyens. Et je me suis dit que même si l'animation aussi, ça coûte relativement cher, ça m'a permis de vraiment m'exprimer. C'est en faisant ce film que j'ai bien compris les dégâts que fait l'Occident au Cameroun. Maintenant, on crie ici en disant « oui, ces gens-là viennent, ceci vient, cela », mais en réalité, si les différentes politiques occidentales sur le continent n'étaient pas de l'exploitation, il n'y aurait pas autant de migrants qui viendraient. Je prends le cas du Cameroun, je prendrais le cas du Zaïre, enfin maintenant on l'appelle République démocratique. Est-ce qu'on a même besoin de dire démocratique pour... Dès qu'on est obligé d'ajouter démocratique, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Hein? Donc, il y a suffisamment de quoi nourrir les Africains dans leur pays, sans qu'ils aient besoin de venir ici. Mais comme c'est surexploité, en plus, la plupart des pays sont dirigés par, il faut dire la vérité, par des dictateurs.
Mes chers compatriotes, depuis que vous m'avez si massivement élu, réélu, et réélu, et réélu, et réélu, et réélu à la tête de notre cher pays, j'ai toujours agi avec le souci constant de vous apporter le bien-être le développement et le bonheur. Et nos universités d'excellence ont formé beaucoup de cadres de haut niveau. Aujourd'hui, pour achever de mettre au travail tous nos intellectuels, j'ai décidé de lancer l'opération Retour à la Terre des diplômés sans emploi stable.
Turbulence, ô Africa, tiens ton destin en main.
Avec pour en sol majeur toujours sur RFI, la voix de Daniel Camois qui doublait donc ce président d'un pays
d'un
africain.
D'un pays imaginaire.
Absolument, qu'on n'a pas du tout reconnu. Alors, ce président qui promet des subventions aux diplômés qui retournent travailler la terre, c'est inspiré d'un véritable fait, ça ?
Ça ne s'est pas passé comme dans le film. Disons que du jour au lendemain, l'État avait vendu des milliers d'hectares dans une région à un homme d'affaires français. Et du jour au lendemain, donc, ces paysans devaient quitter leurs terres. Donc, je l'ai transformé en étudiant qui, après vous avoir terminé leurs études, ne trouve pas de travail en ville. Et le président se dit, tiens, je vais... Parce qu'il y a eu, effectivement, des tentatives comme ça de créer des zones d'exploitation agricole pour permettre, pas nécessairement pour les étudiants, à tout Camerounais ou à tout Africain, de développer telle zone. Ils n'étaient pas forcément subventionnés, mais le fait de leur donner, disons, une zone à exploiter, les mettait au travail. Sauf que, très souvent, la corruption aidant, dès qu'une telle décision est mise en place, ceux qui sont au pouvoir détournent tout et ne donnent qu'à leurs proches. Et ce qui fait que finalement, il y a toujours des mécontents qui restent sur le carreau.
Et ça se termine donc sur les mers de la migration. Donc c'est un film somptueux, mais qui est d'une noirceur politique et sociétale terrible. Ce film, il a été diffusé à Yaoundé il y a deux ans, quelque chose comme ça. Mmh. Est-ce qu'il y a eu une réaction du pouvoir ?
Non, j'avoue qu'il n'y a pas eu de réaction ni pour ni contre. Disons, le film a été projeté, mais j'ai quand même eu un petit incident à Yaoundé. Ce qui m'a surpris, c'est que quelqu'un, tout d'un coup, s'est interposé, parce qu'on avait décidé qu'il y avait ceux qui payaient le tarif adhérent de l'Institut français et le public normal qui paierait un prix supérieur. Ce monsieur est venu en disant « ce sera tarif de l'Institut français pour tout le monde ». J'ai senti là que c'était une manière de saboter le film.
Est-ce que ce film a été censuré, pour être clair ?
En tout cas, il n'a pas été censuré. C'est pour ça que je dis que ce n'est que cet incident. Parce qu'effectivement, s'il y avait une censure officielle, à ce moment-là, peut-être que je ne serais pas là pour vous parler.
On pourrait terminer peut-être sur une voix de doublage, Daniel Camois, que vous avez faite pour le film « Invictus ». C'est pas rien, puisque vous avez donc doublé un certain Morgan Freeman. Autrement dit, vous avez été un peu Mandela.
Frère, sœur, camarade, je suis venu parce que je pense que vous avez pris une décision sans avoir été suffisamment informé et prévoyant. Je suis au courant de votre vote de tout à l'heure. Je suis au courant que vous avez voté à l'unanimité. Néanmoins, je pense que nous devrions rétablir les Springboks. Rétablir leur nom, leur emblème, ainsi que leur couleur, séance tenante.
Un petit peu d'Invictus sur RFI pour en sol majeur avec la voix de Daniel Camois. Alors, est-ce que c'est une expérience de plus ? La vraie question douloureuse, c'est est-ce que vous auriez pu devenir un jour un Morgan Freeman en France ?
Oui, j'aurais pu, mais sauf que la France, c'est la France. La configuration actuelle ne le permet pas. Depuis longtemps, d'ailleurs, l'année dernière ou il y a deux ans, ces actrices noires qui ont manifesté à Cannes en disant qu'on ne les utilisait que comme des noirs et non pas comme des...
Comédienne.
Comme des comédiennes. Donc, c'est pas nouveau. Et je ne sais pas si ça changera un jour. Peut-être qu'il faudrait que nous, réalisateurs africains, faisions des films en France avec des noirs et des blancs pour peut-être leur donner l'exemple.
En sol majeur @rfi.fr
Merci à vous, Daniel Camois, d'avoir été l'acteur de cet en sol majeur. Et puis, bon vent pour ce 7e long métrage que vous êtes en train de tourner. Je sais que vous êtes sur l'adaptation d'un roman qui s'appelle Petit Joe, enfant des rues, à suivre. Une dernière question, qu'est-ce qui vous fascine dans le Boléro de Ravel, tel qu'il a été filmé par notre Claude Lelouch dans Les uns et les autres?
C'est vrai qu'il a quand même, dans ce film qui raconte aussi l'immigration, hein, finalement, Les uns et les autres, hein, je crois. Parce qu'il y a des films comme ça, même si on n'aime pas tout le film, tout d'un coup, vous avez une séquence qui vous séduit. Ce plateau sous la tour Eiffel, avec ce danseur sur le rythme du Boléro de Ravel, c'était fascinant.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio, puisque vous aimez la technologie, Daniel Camois.
Oui.
Et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine, tiens, avec un comédien, Sharif Andoura.
Aha.
À la semaine prochaine.
Très bien.